Salut, c'est Gauthier Zimmermann. Il y a quelques années, j'ai décidé de changer de métier et de devenir product designer. Quand j'ai pris mon nouveau rôle, j'avais des doutes et des questionnements sur mon choix. J'ai alors rencontré des designers de tous horizons pour apprendre de leur parcours et de leur expérience. C'est grâce à leur histoire que j'ai pris confiance en moi. Je me suis nourri de leur expérience pour progresser dans mon métier. Aujourd'hui, j'aimerais que chacun ait cette opportunité, grandir en apprenant des histoires des autres. Dans ce podcast, tu vas profiter un mardi sur deux du recul et des réflexions des meilleurs mentors design. Leur parcours est unique, il t'aidera sûrement à construire le tien. Profite de cette discussion pour choisir les conseils qui seront le plus utiles dans ta carrière. Bonne écoute!
Daisy, bonjour, sois la bienvenue dans ce nouvel épisode de Design Journeys. Je suis très content de te recevoir. On s'est croisé à un talk et quand j'ai entendu ce dont tu parlais, ce que tu fais aujourd'hui, j'ai tout de suite réagi en me disant « Ok, j'ai trop envie de t'avoir dans le podcast pour qu'on parle de plein de choses, de Product Inclusion and Equity, dont j'arrive pas trop à trouver la traduction, mais on va en parler un petit peu plus tard. » J'ai découvert que ça faisait 18 ans que tu étais chez Google, et là je me suis dit « 1. J'ai quasiment eu personne de Google dans le podcast. 2. Je n'ai jamais eu quelqu'un qui a fait une aussi longue carrière dans la même boîte. » Et je me suis dit « Ok, il faut qu'on parle. » Et donc du coup, je suis très content de te recevoir aujourd'hui. Et j'aimerais bien, en termes d'introduction, que tu te présentes et que tu nous dises qui tu es, s'il te plaît.
Ouais, d'accord. Merci à toi surtout pour l'invitation. Alors, je m'appelle Daisy, je suis UX designer chez Google et effectivement, ça fait bientôt 18 ans que je suis dans cette boîte. Alors qu'au départ, je n'étais pas prédestinée à la vie corporate et certainement pas à la tech. Mmh. En fait, moi, j'ai fait des études d'art, ouais. J'ai fait les arts déco de Strasbourg. Moi, j'étais partie pour devenir une artiste, je voulais faire vivre de mon art, faire des expos photos, des installations. Voilà, c'était ça mon but quand je suis sortie du lycée à 18 ans. Bon, ceci dit, blague à part, j'avais cette idée de vouloir développer ma pratique artistique, mais très tôt, je savais que bon, vivre de son art, c'est pas toujours une option. Ouais. Donc, j'ai aussi fait du graphisme. Comme ça, quand je suis sortie de l'école, j'ai pu faire des stages. J'ai fait notamment un stage dans le réseau des musées de la ville de Strasbourg, ouais. Où j'étais en charge de tout ce qui était affiches, flyers, tout ça. Super formateur. Et après, j'ai travaillé dans une petite maison d'édition, les éditions de La Rose, qui spécialisée dans le magazine Tricot Crochet. Pas vraiment le boulot de mes rêves, mais ceci dit, j'ai appris beaucoup sur toute la chaîne d'impression et beaucoup au niveau technique. Donc, plutôt une bonne expérience. Sauf que après avoir travaillé pendant un an, je me suis dit, mais en fait, l'école, c'est vachement bien. Donc, je suis retournée faire des études et je suis allée faire des études au nord des Pays-Bas, à Groningen. J'ai fait un master en Interactive Media and Environment. Alors, ça consiste en quoi ? C'est un master en fine art, c'est-à-dire la même chose que ce que j'avais fait aux Arts Déco de Strasbourg, mais là, vraiment orienté nouveaux médias. Donc, pour faire simple, de l'art généré par des ordinateurs. Okay. Donc, j'ai appris un peu à faire du code, de l'électronique, de la robotique. Et surtout, j'ai amélioré mon anglais. Parce que pendant 2 ans, tous mes cours étaient en anglais. Et comme je ne parlais pas hollandais du tout, mon seul moyen de communication avec les gens, c'était l'anglais. Voilà. Donc, ça, c'était la vie avant Google.
Et je te remercie parce que du coup, je n'ai aucune question à te poser sur ton parcours puisque tu viens de tout faire pour moi.
Je t'en prie.
c'est cool. Alors, du coup, la question que je me suis posée, c'est quand même qu'après tes études, tu rejoins Google, mais...
Comment ?
Mais comment et surtout dans quoi ? Parce que si j'ai bien noté, tu as commencé en tant qu'account associate. Je te demanderai après ce que c'est, parce que les noms chez Google, c'est à rallonge et ça veut tout et rien dire. Mais tu commences dans l'équipe AdSense, donc ni du design, ni dans une équipe vraiment design.
Exactement.
Donc en charge de tout ce qui est publicité. Comment tu... déjà... Qu'est-ce que c'est un account associate chez Google et surtout pourquoi tu n'as pas continué dans la voie graphique ou en tout cas art design au sens large tout de suite après ton master ?
Effectivement, retour de master, retour en France.
Ouais.
J'ai un portfolio qui est plutôt correct. En plus, j'avais bossé en freelance, donc j'avais pas mal d'expérience. Je n'étais jamais appelée en entretien. Et je vis aussi, bon, à l'époque c'était mon copain, mais on a exactement le même parcours d'études. Mmh. Notre portfolio est assez similaire en fait parce qu'on a bossé en freelance ensemble.
Okay.
Mais l'un de nous était appelé.
Et pas l'autre.
Et pas l'autre. Je vais pas m'étendre sur le pourquoi. Je pense que moi, j'étais pas appelée en entretien. Et même sa lettre de motivation, c'est moi qui lui écrivais. Donc, il n'y avait pas de raison oui. qu'il soit appelé en entretien et pas moi. Et la seule boîte qui m'a ouvert la porte, c'est Google.
OK.
J'ai passé 2 entretiens. J'ai été prise directe. Je suis partie à Dublin. Alors, effectivement, AdSense coordinateur, AdSense account associate. Ça, pour moi, ça ne voulait pas dire grand-chose avant de rentrer dans la boîte. Et effectivement, ça correspondait pas du tout à ce que je voulais faire. Mais en même temps, il y a un moment, il faut manger, faut payer son loyer. Et donc, je me suis dit, allez, je le tente. En plus, je vais partir vivre à Dublin. Ça ouais. peut être sympa.
Mais c'est Google qui t'a proposé ce poste-là quand t'as postulé ou c'est toi qui as postulé à ce...
Alors, j'ai postulé à un truc un peu général.
Okay.
Et après, je pense qu'en fonction des profils, ils nous ont orientés sur le truc. Enfin, c'était quand même AdSense. C'est quand même AdSense, mais il y avait différents postes qui étaient ouverts. Okay. Et voilà. Donc, j'ai commencé comme ça. Donc, plutôt en bas de l'échelle.
Okay.
Mais sans vraiment savoir, en fait. Enfin, évidemment, pour les entretiens, j'avais regardé qu'est-ce que c'est AdSense, tout ça. Mais avant de rentrer, je ne savais pas exactement quoi allait consister mon travail, honnêtement. J'ai compris assez vite. Et j'ai compris assez vite que ça n'allait pas aller du tout.
Mais ça consiste en quoi, du coup ?
Alors, ça consiste en quoi ? Donc, le programme AdSense chez Google, c'est un programme qui permet aux éditeurs web, donc si c'est un site web, tu peux héberger des pubs Google sur ton site et faire de l'argent.
Okay.
Moi, mon boulot, c'était de... on recevait les applications, les candidatures, en fait, des personnes qui voulaient participer au programme et il fallait qu'on vérifie bon, déjà est-ce que cette personne existe réellement ou est-ce que c'est complètement farfelu et surtout sur le site qu'il proposait il rentrait dans les critères en fait d'éligibilité du programme et puis après aussi l'accompagnement aider les éditeurs web à intégrer le code sur leur site enfin faire un peu de service technique quoi donc loin du design
ouais ce que j'allais dire absolument rien à voir
c'est pas très grave parce qu'en fait déjà j'apprenais beaucoup parce que j'améliorais mon anglais il y avait quand même une ambiance assez drôle on était plein de jeunes qui venaient de partout en Europe c'était un peu Erasmus mais avec un salaire et j'avoue je me suis beaucoup amusée les 2 premières années c'était très drôle c'est aussi le début de la vie d'adulte entre guillemets donc c'était loin de mes aspirations mais bon voilà j'ai fait avec. Ceci dit, très vite, j'en ai parlé à mon manager et j'ai eu de la chance parce que c'était un bon manager. Et la vie s'est faite de bons managers et de mauvais managers. Mais là, en l'occurrence, Yann était un très bon manager. Et je lui ai dit, je m'ennuie un peu. Quoi. Enfin, ce qu'on fait, ce n'est pas créatif. En réalité, ce travail maintenant, c'est fait par des algorithmes. Donc, ça ne nécessitait pas non plus beaucoup de réflexion. Donc, je lui ai dit, je m'ennuie, ça ne va pas durer longtemps cette affaire. Et parce que c'était quelqu'un de malin et qui, je pense, voyait du potentiel en moi, il m'a donné très vite un peu de graphisme à faire. Donc, dès qu'il y avait... on a besoin d'un t-shirt pour célébrer tel truc. Hop, je faisais le design. On organise une grosse conférence. Je faisais un peu de montage vidéo. Je faisais toute la com visuelle. Et du coup, ça m'a permis... de continuer à travailler côté AdSense, mais aussi à avoir quelque chose qui me permettait aussi de monter en compétences. Et ce qui fait qu'un jour, quand il y a eu un poste de visual designer qui s'est ouvert côté learning and development, j'avais un portfolio déjà assez robuste en interne pour dire, regardez, c'est bon, je peux faire ce travail.
Du coup, c'est ce que j'avais noté en faisant mes recherches sur ton parcours. Et du coup, ça veut dire que à ce moment-là, t'es un peu un électron libre. Quand tu parles de, tu vois, quand je vois Google, c'est une grosse boîte. Je me dis qu'il y a une communication qui doit être quand même assez nette et claire pour tout le monde partout. Et toi, tu fais un petit peu de graphisme dans une équipe. Est-ce que tu vis un peu ta vie dans ton coin et tu t'arranges ou est-ce que tu travaillais avec d'autres designers à ce moment-là chez Google pour...
Non, j'étais complètement électron libre.
Okay.
Alors, il faut aussi savoir que en 2006, les équipes de design n'avaient pas du tout la place qu'elles ont aujourd'hui chez Google. On était de toute façon, enfin même dans des postes du designer officiel, il n'y en avait pas tant que ça.
D'accord.
Donc au départ, ouais, complètement, je faisais ma petite sauce toute seule. Ce qui fait que la plupart des trucs que je faisais n'étaient pas vraiment brandés Google en réalité. Je me refusais à utiliser les quatre couleurs, donc ce que j'ai fait au début, c'était complètement hors brand en fait. Donc je réalise, mais c'est pas très grave.
Personne ne saura. C'est entre nous.
Non, bon, c'est pas.
Et donc du coup, au bout de 2 ans, tu changes de poste, c'est ça?
Au bout de 2 ans, je change de poste. Donc il y a ce poste qui s'ouvre. En plus, il est basé à Dublin. L'équipe est à Dublin. C'est super. Je postule. Alors il faut savoir que chez Google, quand tu postules comme tout le monde.
Okay.
Donc tu es aussi en compétition avec des candidats externes. Je passe 7 entretiens.
Ah ouais?
Alors qu'il m'en a fallu que 2 pour rentrer dans la boîte. Et là, il m'en faut 7 pour changer de poste. Ce que je trouve toujours assez fou en fait, et voilà, et j'ai finalement le poste, et puis je rentre dans l'équipe Learning and Development. Donc c'est l'équipe qui est en charge en fait des formations internes.
D'accord. Voilà. Donc pour tous les employés Google.
Ouais. Alors à l'époque c'était régional, donc c'était EMEA, Europe, Middle East, Africa.
Et du coup toi, ton rôle c'est quoi?
Mon rôle c'est graphiste, et je fais des PowerPoint.
Oh, super.
Je fais des icônes, je fais des logos. Les gens ils viennent, ils disent oui, alors on a tel cours qu'on va mettre en place, on a besoin d'un PowerPoint, d'un petit fascicule qu'on va donner aux participants. On a une nouvelle équipe, on a un nouveau programme, on a besoin d'un logo. Donc voilà, j'apprends aussi beaucoup en même temps, et au début j'exécute. Je suis assez jeune, je me rends pas forcément compte que j'ai en fait la capacité de questionner certaines choses. Donc au début j'exécute.
D'accord.
Donc en termes de branding, chaque équipe, chaque sous-équipe, elle veut son propre logo en fait, ce qui n'a aucun sens. Mais justement au bout d'un moment, je me dis attention, là il y a quelque chose qui ne va pas. Et alors, ce qui se passe aussi à cette époque, c'est que, comme toujours, je suis... alors, je ne sais pas, c'est ce truc d'électron libre, il faut que je réfléchisse aussi pour moi-même. Mais je me dis, ouais, ok, c'est du graphisme, mais c'est pas fou non plus. Jamais contente. Donc, je demande à faire un 20% avec l'équipe du Creative Lab à Londres.
Ok.
Donc c'est une équipe marketing de designers attachés au marketing et qui bossent sur des campagnes externes. Et du coup, bah, alors pourquoi, je ne sais pas, mais j'obtiens ce que je veux. On me laisse bosser avec cette équipe. Et du coup, j'apprends beaucoup aussi.
Ok. J'ai 2 questions là-dessus. La première, sur ton poste à 80%, encore une fois, tu es toute seule ou tu es...
Toute seule.
Encore toute seule.
Ouais.
Donc là, en fait, c'est 20%...
Non, en réalité, les 20%, ils sont en plus des 100%. Officiellement, c'est 80-20. En vrai, t'es déjà à 120 et tu rajoutes 20.
Ok, on a parlé des 120%, parlons des 20% restants. C'est une équipe qui est à Londres, tu vas aller voir à Londres, tu bosses depuis...
Alors, c'est une équipe qui est basée, on a une partie de l'équipe qui est à Dublin, une partie à Londres et une partie en Pologne à l'époque. Okay. Et je crois quelques personnes en Suisse.
Et donc toi, tu bosses à côté avec eux?
Ouais. Alors, c'est marrant, oui, parce que je suis obligée de me replonger. C'est vrai qu'au départ, on faisait, tu vois, même la visioconférence qui est un outil de tous les jours, à l'époque, on n'en faisait pas tant que ça. Donc, c'est énormément d'emails.
Ouais, le monde a bien changé.
Ouais, le monde a bien changé. Parce que je me souviens encore des toutes premières grosses visioconférences qu'on a fait. Et c'est vrai qu'au début, on n'en faisait pas systématiquement, tu vois. En fait, la visioconférence, c'était... déjà, il fallait avoir un code spécial que tout le monde n'avait pas. Donc moi, je sais que j'utilisais souvent celui de mon manager, parce qu'il était très facile à retenir. Donc on était, je sais pas pourquoi, on utilisait toujours son code. Et c'est vrai que la visioconférence était réservée à des grosses réunions d'équipe. Mais en fait, on faisait pas de visio en one-on-one régulièrement, enfin au tout début. Et puis après, bon, c'est devenu un outil. Mais oui, voilà, dès qu'on crée une nouvelle formation, formation pour les managers... moi je crée toute la charte graphique autour de ça. Et puis ce qui se passe, c'est que je dirais en 2008-2009, je travaille sur mon premier gros projet, Mon premier, tu vois, c'est dans une carrière, tu as toujours les projets où tu dis, ah là, il y a quelque chose qui est en train de changer dans la... pas forcément dans toi, mais la perception que les gens ont de toi. Et on me confie, en fait, on va créer une sorte de plateforme interne sur laquelle on va recenser tous les modules de formation disponibles pour les employés en Europe.
Okay.
Alors, c'est rigolo parce que tu dis en 2008, on n'avait pas encore... On n'avait pas ça.
Ouais, je suis en train de me dire, vous échangiez des PowerPoints jusqu'à maintenant, c'est ça et...
Ouais, et puis c'est-à-dire que même par exemple pour annoncer il y a une nouvelle formation, ça passait par des newsletters, par des emails et des posters. C'est-à-dire que je faisais des posters que j'envoyais par email, qu'on imprimait et qu'on collait dans les bureaux.
Oh waouh. Ok, très bien. Mais donc du coup 2008, 2009, tu travailles sur une plateforme pour éviter les posters dans les bureaux ?
Pour qu'on se calme avec les posters, parce qu'il y a un moment, ça devient compliqué.
Ah ouais.
Puis bon, on est quand même Google, ça n'a aucun sens. Et pour ce projet, je travaille avec un ingénieur qui est basé à Londres. Alors, c'est là aussi où je commence à voyager un petit peu. Je fais un peu de code parce que pas le choix, parce que y a un moment on n'est que deux sur ce projet, donc allez, moi à l'époque je faisais juste un peu de HTML là, d'un seul coup il faut apprendre les CSS, je suis là, ah bon d'accord, hop je m'y mets, c'était il y a longtemps quand même, et pareil en fait, ce qui a été intéressant dans ce projet c'était bon, il y a la partie exécution, faire le code, machin, mettre le site en place, mais il y avait surtout toute la partie qui consistait à s'assurer que le design répondait à un vrai besoin et que trouver un équilibre entre ce que d'un côté ma direction me disait de il faut que le site nanana et moi qui commence à réfléchir à l'utilisateur final et dire moi je crois pas qu'ils aient besoin de ça en fait, donc je commence à poser plus de questions aussi parce que j'ai un peu plus de comment on appelle ça, de tenure, donc ça fait déjà quelques années que je suis là, je suis un peu plus à l'aise, donc j'ai moins peur de dire en fait non, là je pense qu'on va pas dans la bonne direction, il faut réfléchir à ça différemment, donc le projet est un succès, tout le monde est content, on me jette des fleurs et à partir de ce moment là je continue toujours à faire mes Mickey et mes petits logos et mes trucs, mais on me confie aussi plus de gros projets et surtout plus de design web.
Ok, et justement, c'est un peu le point, on va dire le point de bascule que j'ai eu dans ton parcours. Et la question que je me suis posée et que je pose à chaque fois à mes invités qui font un peu cette bascule, c'est à ce moment-là, comment tu t'apprends cette nouvelle compétence ? Parce que techniquement, ce qu'on appelle aujourd'hui l'UX design, qui s'appelait design web à l'époque, bref, tu l'as techniquement pas appris en école. Donc c'est quelque chose que tu découvres. Là, tu parles de j'aimerais bien faire quelque chose qui sert aux utilisateurs plutôt que ce que me dit ma direction. C'est pas encore quelque chose d'inné ou d'ancré dans la mentalité. Comment t'apprends ça ? Comment tu découvres ça ? Comment ça se passe ?
En fait, ce qui est drôle, c'est que je le faisais avant de savoir que je le faisais.
Ouais.
C'est-à-dire que moi, je me pensais web designer, tu vois, web designer / graphiste, tu vois, tous les noms qu'on se donne. Et de nouveau, un nouveau manager, Sidir, qui me dit « Mais tu sais que tu fais de l'UX design ?» Non. En fait, je lui ai dit « Bah non, parce que je ne savais pas ce que c'était, en fait. On est en 2009 et je ne sais pas vraiment ce que c'est, moi, l'UX design. Une fois passé le côté un petit peu... je commence à regarder, je cherche qu'est-ce que c'est l'UX design. Et au départ, j'ai un peu du mal à comprendre ce que c'est, honnêtement, et j'avais un peu du mal aussi à... Je trouvais que ça correspondait pas tout à fait à ce que je faisais, mais c'est normal en fait, puisque je n'avais pas encore les compétences pour le faire. Je regarde et puis je me dis, ok, bon, peut-être que c'est ça que je fais, je vais... Et surtout au début, je me disais non, moi je fais de user interface, je fais pas user experience, parce que je pensais vraiment être juste dans la surface. Parce que je crois, enfin il y a un côté quand même assez, c'est quoi le mot que je cherche ? Pas c'est quoi le, quand tu dis pas concret, un peu intangible en fait, un peu intangible du côté UX que j'arrivais pas à voir, donc je Voilà, ça me parlait pas. Mais parce que on est dans une boîte américaine, ce qui est assez fou, c'est que une fois que je suis on board, on me dit, tu veux t'acheter des livres pour apprendre ? Achète, t'as le budget. Tu veux aller faire des workshops, aller à des conférences ? Vas-y. Donc, j'ai appris comme ça.
Ok, c'est ce que j'allais te demander. C'est comme ça que t'as appris ces compétences-là.
Ouais.
Ok. Et du coup, par la suite, tu changes un petit peu. Je ne sais pas si l'équipe change de nom ou si tu changes d'équipe, puisqu'au bout de 3 ans, tu passes dans la People
Dev. Alors, c'est toujours la même équipe, sauf qu'elle est devenue globale. C'est-à-dire qu'au lieu d'être régionale avec l'Asie, l'Europe et les États-Unis, on devient une équipe globale. Ce qui fait sens, en fait, plutôt que d'avoir 3 instances de la même équipe, tu n'as qu'une seule équipe. Et surtout, alors on passe d'un côté learning and development, qui est vraiment plus sur de la formation, avec une approche qui est plus développement de carrière.
D'accord.
Donc, il n'est pas juste de la formation. Donc, c'est pour ça qu'on passe de learning and development à people development. Il y a eu quelques autres tentatives de branding malheureuses entre-temps, que je ne rappellerai pas ici. Et en fait, pendant quelques années, je vais garder ce truc de visual designer / UX designer. Donc, et oui, puis en plus, à ce moment-là, je commence à travailler avec l'équipe com.
Okay.
Je fais énormément de branding, branding interne. Donc, il y a une partie de mon boulot, c'est vraiment branding. Et l'autre côté, il y a UX design. Avec des projets plus ou moins heureux. Il y en a un qui me suit encore aujourd'hui. Je suis désolée. Je m'excuse auprès des employés de Google pour. C'est un produit qui s'appelle G-Learn, qui est un produit interne en fait qui nous permet de, en gros, de créer des instances pour des cours en présentiel.
Ok.
Donc c'est une sorte de. Enfin, c'est même pas un calendrier. Je saurais même pas comment décrire. Ça permet de. Ouais, tu rentres toutes les informations par rapport à ton cours, et puis après, tu peux avoir une liste d'instructeurs, et puis une liste de salles dans laquelle... Un truc administratif très, très relou. Pas ma plus grande réussite, parce que j'ai fait quelques erreurs de junior. Mais bon, voilà. Aussi un gros projet, et là, bon, je commence à avoir pas mal de boulot, donc on me dit, bon, là, il y a Hector qui est là, il va bosser avec toi. Donc Hector, je le prends sous mon bras, je le forme parce qu'il a pas de... Il est encore assez junior. Et donc, il m'aide énormément sur la partie visual design, branding, mais la partie UX, je suis laissée dans mon coin. Et en 2012, je pars en congé maternité.
Ok.
Et à mon retour en 2013, parce que c'est un congé maternité à l'irlandaise, donc je pars 10 mois, et ben Hector, il avait take over complètement la partie visual design, mais au point que quand je suis revenue, je sentais bien qu'il ne voulait plus lâcher. Et là, je réalise en fait que...
Il reste l'autre partie.
Il reste l'autre partie et je n'ai plus le choix. Alors bon, je ne vais pas mentir, hein, sur le coup, ça ne m'a pas fait plaisir.
Ouais.
Parce que c'était aussi un peu violent, parce que en fait, ça faisait quand même plusieurs années, ça faisait 5 ans que j'étais dans cette équipe, 5-6 ans que j'étais dans l'équipe, c'est moi qui avais quand même tout monté toute seule, et là je reviens congé mat et je me fais un petit peu pousser sur le côté, c'est pas plaisant, mais ça m'a obligée du coup à faire un vrai choix de carrière et de me dire bon, ok, maintenant tu te mets là-dedans et tu t'y mets sérieusement.
Ok, alors je vais revenir là-dessus, il y a juste une question sur ce que tu as dit avant. Sur les petites erreurs de parcours, à ce moment-là, ça veut dire que tu étais encore toute seule. Enfin, je veux dire, ça me paraît ouf de me dire que tu es toute seule sur ce genre de projet, qu'il n'y a pas quelqu'un qui est avec toi, je ne sais pas, même un PM, je ne sais pas, quelqu'un qui t'aide.
Non, alors sur ce projet-là, on n'avait pas de PM, on avait juste 2 ingénieurs et moi.
Ok, je comprends. Mais ça veut dire que jusqu'à ce moment-là où tu dois faire un choix, tu es à peu près toute seule tout le temps, hormis Hector qui vient le visuel.
Ouais.
C'est fou!
C'est fou.
Et je veux dire, à la taille de Google et l'image que je m'en fais, c'est...
Et justement, en fait, parce que c'est tellement gros comme boîte que t'as des poches de vide. Et moi, je suis dans un... En plus, je fais partie de Learning and Development, ou People Dev. Ça appartient à ce qu'on appelle chez nous People Operation. Donc, en fait, c'est RH.
D'accord. Et c'est détaché du
produit. Et c'est complètement détaché du produit. C'est complètement détaché de la partie ingénieur.
Ah oui, donc tu n'avais même pas une relation...
Je suis seule. Je suis seule.
C'est dingue.
Ouais.
Enfin, moi, ça me... Enfin,
Donc, complètement.
À titre personnel, ça me...
Ouais, bah ouais, c'est marrant. Oui, parfois, je devrais dire, mais en fait, t'as fait ça toute seule, c'est pas mal. Quand même.
Oui, oui.
Donc, tu vois, même ces erreurs de jeunesse, ouais, ouais, finalement.
Ouais, non, mais parce que du coup, ça veut dire que t'es arrivé en 2005 jusqu'en 2013, t'es encore, pour, en tout cas de ce que tu viens de raconter, t'es toute seule pendant toutes ces années, et tu te formes, on te donne des bouquins et des conférences, mais enfin, je veux dire, il y a un moment, tu...
Et ben justement, 2013, c'est le gros changement. Donc là, c'est vraiment la grosse bascule parce que, de nouveau, gros projet.
En... Bon, j'ai juste une question juste avant. C'est, du coup, avant cette grosse bascule, pourquoi tu te dis OK, UX design à fond? Tu t'aurais pu dire je vais faire du visual design dans une autre équipe. Qu'est-ce qui fait que ce choix, cette orientation-là plutôt qu'une autre?
Pourquoi cette orientation? Alors. Je pense qu'il y a un côté hyper pragmatique, ouais, qui est, alors oui, j'aurais pu aller faire du visual design ailleurs, mais il fallait que je trouve un poste, il fallait que je postule, il fallait qu'il soit à Dublin parce que moi j'ai deux enfants en bas âge et qu'à ce moment-là, je ne me vois pas du tout tout lâcher et partir. Donc la probabilité de trouver un poste de visual designer à l'époque à Dublin était proche de zéro. Et en vrai, j'étais une des seules. Je crois qu'il y en avait un autre qui traînait dans le coin, mais vraiment, il n'y avait pas. La plupart des postes étaient à Londres,
okay,
pour l'Europe. Et après, c'est New York, Mountain View. Et Londres, ce n'était pas du tout une option pour moi de destination. Donc, il y avait ce côté-là, genre, bah oui, si je veux changer, si je veux aller ailleurs, il faut... Voilà. Et après, une autre raison, et peut-être que c'est la vraie raison... La première que je viens de te donner, je m'en servais en excuse. Il y a aussi la peur. Mmh. Aussi, bah, tu viens de le dire, j'étais toute seule, j'ai appris toute seule, quand même. Et je pense que j'avais un peu peur, en fait, de me casser la figure ailleurs, quoi.
Je comprends.
Ouais.
Et donc, voilà. Et donc, du coup, on reboucle sur le gros projet dont tu voulais me parler.
Voilà. Donc, le gros projet de 2013, bah, la plateforme que j'avais créée pour l'Europe, et bah, là, elle devenait mondiale. Elle devenait mondiale. Et puis, surtout, là, on avait une vraie équipe. On avait deux PM, on avait des ingénieurs. Et il y avait des UX designers basés à Mountain View. Des vrais, eux, avec des formations en HCI, en Human Computer Interaction. Et donc, moi, je rentre dans ce projet parce que je suis aussi là pour amener la voix de mon équipe. Et je dis, bon, bah, toi, t'es UX designer, tu fais partie de notre équipe, tu vas être un très bon... relais, en fait, pour aller travailler avec cette équipe. Donc, j'y vais. Et là, effectivement, bah, ta pratique, elle se heurte à des gens qui font ça pour de vrai. Et la première année a été dure.
Ouais.
Parce que bah, j'ai pas tout rappris. Il a fallu que j'ajuste quelques petits trucs, que j'apprenne. À être dans un vocabulaire plus juste, que ma méthodologie soit un peu plus carrée. Alors, ça change pas fondamentalement le travail, hein, mais... L'approche est différente. Enfin.
Et du coup, tu apprends ça comment? Encore pareil avec des livres ou c'est,
Non, là, en fait, c'est en travaillant avec eux.
Ouais.
En travaillant avec eux chez un des designers, Semir, quelqu'un de fondamentalement gentil qui me prend. Ouais, je lui dis lui parce que l'autre designer, elle n'était pas fondamentalement gentille. Alors, peut-être ils avaient décidé de faire un truc good cop, bad cop, mais donc j'avais un designer qui me fouettait un peu et l'autre qui disait non, allez, viens, on va travailler ensemble, tu vois, qui me guidait, qui me coachait un peu. Et lui, ouais, il m'a complètement pris sous son aile et donc voilà, du coup, très vite, j'ai pris le pli parce que, bah, je pense qu'une de mes qualités, et pour de vrai, pas juste ce que je mets dans ma lettre de motivation, c'est que j'apprends très vite. Et ce qui m'a permis vraiment d'un seul coup de décoller dans ma pratique et d'être capable aussi de livrer des produits bien designés, impeccables et tout ça. Donc ouais, ce projet-là, ça a été... en fait, c'est une sorte de LinkedIn interne. Qui, en fait, en fonction de ton profil, donc il y a la partie RH, c'est-à-dire ta job catégorie, ton niveau, où tu es basé, et puis tu peux rajouter des compétences. Donc, il y a les compétences que tu as, et puis tu mets le niveau de maîtrise de la compétence, et puis il y a les compétences que tu veux développer. Et après, en fonction de ce profil, la plateforme, elle te dit, bah voilà, tu as ces compétences, et bien il y a, y a un poste de UX designer à Zurich, voilà, ou un projet en 20% qui pourrait t'intéresser, et les formations. Moi, en ce moment, j'essaye d'apprendre plus sur côté tout ce qui est intelligence artificielle et machine learning. Et donc, ça me propose tout un tas de formations. Voilà. Donc, on a développé cette plateforme. Une grosse partie de mon travail, ça consistait vraiment à garder la paix entre les deux équipes, parce qu'il y avait il y avait le côté ingénieur qui arrêtait pas de dire, mais on n'a pas besoin de tout ça. Et moi, je venais du côté learning and development, où je sais comment les gens travaillent, je savais pourquoi, je comprenais le pourquoi des demandes. Et en fait, je faisais un peu la traduction entre les deux groupes. Et puis, quand les ingénieurs revenaient avec des trucs, c'est pas possible, je passais le message de façon un petit peu plus diplomatique.
Ok, donc là, tu as vraiment les pieds dedans, ça y est.
Ça y est, j'ai les pieds dedans. 2013, je suis dedans full time. Et là, ça devient vraiment intéressant et aussi très dur. Parce que comme je travaille avec les États-Unis,
ouais, c'est ce que j'allais te demander.
Je suis tous les trois mois, je suis de l'autre côté de la planète. Ah.
Côte ouest, c'est ça ?
Ouais. J'ai des enfants, ils sont tout petits. C'est un peu dur. Et 2013, c'est aussi l'année où je rentre en France.
Ouais, merci pour cette transition.
Voilà.
Qui est, effectivement, dans ce que j'ai noté, c'est que tu repasses de Dublin à Paris. Mm. Est-ce qu'il y a une... Qu'est-ce qui te donne envie de
revenir en France ? Ouais. C'est passé plusieurs choses. J'ai fait 8 ans à Dublin, alors qu'au début, moi, j'étais partie pour 2 ans max. Mais bon, oups. 8 ans, 2 enfants plus tard, j'étais toujours là. Il y avait plusieurs choses qui ont motivé. Moi, ça faisait un moment que je voulais partir. Le manque de diversité en Irlande à l'époque, ça a énormément changé en 10 ans. Il y a pas beaucoup de gens qui me ressemblaient dans le quartier où je vivais. Et le climat, c'est juste pas possible. Moi, ce niveau de pluie et de... Alors, il fait jamais très froid, mais il fait jamais très chaud non plus. Honnêtement, je trouvais que c'était dur. Un des derniers étés, c'était au mois de juillet, mes copines m'envoient une photo d'un barbecue au bord d'un lac. Et moi, j'ai encore mon manteau d'hiver. Quoi. Et donc, je me dis non, là, j'en peux plus. Donc, le manque de diversité, ça. Et puis, en fait, mon mec, il est embauché pour aller être directeur de programme à Parsons, à la New School, à Paris. Donc
tout s'aligne.
Tout s'aligne d'un seul coup, hop, on rentre.
Et c'est pas un problème du coup de... Parce qu'il me semble que, si je me trompe pas, en tout cas à l'époque, parce que je sais que à cette époque-là, j'étais en train de chercher des stages et tout ça, il n'y a pas de poste de designer à Paris, ils sont soit à Dublin, soit à Zurich.
Il n'y a personne. Non seulement ça, mais en plus Paris, c'est même pas un... C'est pas un gros hub pour mon équipe. Et au départ, on me dit, non, tu rentres pas à Paris. Si tu veux garder ton boulot, tu restes à Dublin. Puis moi, je dis, non, moi, je veux rentrer à Paris. Et en fait, je leur dis, de toute façon, je travaille quasiment avec personne à Dublin.
C'est pas faux.
Je suis tout le temps dans l'avion, là. Toutes les personnes avec qui je travaille, elles sont aux États-Unis. Oui, mais bon, tu as perdu une heure de overlap. Alors, c'est vrai, j'ai perdu une heure, c'est un peu difficile. Mais au début, on me dit, ok, tu vas à Paris, mais tu as 3 mois et tu trouves autre chose. Ou sinon, tu poses ta DEM, quoi. Donc, quand j'arrive à Paris, j'ai pas de contrat français. Et j'ai surtout cette épée de Damoclès qui est que tu te trouves vite un boulot, sinon...
Et il se passe quoi au bout de 3 mois ?
Il se passe rien. En fait... Au début, j'ai pleuré beaucoup, je suis très en colère, j'ai pleuré beaucoup. Et puis je me suis dit, j'y vais. Quand je serai à Paris, je vais essayer un peu d'élargir mon réseau pour voir s'il y a des choses disponibles. Mais très vite, je me rends compte que non, il n'y a aucun poste qui ressemble au mien.
Chez
Google. Et puis, j'ai continué à faire du bon boulot, ça... Et puis effectivement, au bout de 3 mois, ils se rendent compte que ça n'a rien changé, que le boulot est là.
Tu restes ?
Donc je reste. On me dit, ok, c'est bon, je reste. Donc voilà. Mais ça reste, quand j'en parle même en interne, Les gens me disent, mais comment t'as fait? Ça n'arrive jamais, je sais pas.
Aujourd'hui, il y a des designers à Paris ou tu...
On est quelques-uns, on est une dizaine.
T'as ouvert un tout petit peu la boîte de Pandore?
Ouais, bah, en fait, non. Il y a des designers maintenant parce qu'il y a plus d'ingénierie, plus d'équipes d'ingénierie. Donc, on a Chrome qui est là. Donc, on a des designers côté Chrome. Et puis, on a surtout le Cultural Institute. Donc, c'est pour ça qu'on a, on a quelques designers ici maintenant. Mais on n'est vraiment pas nombreux, quoi.
J'en reparle un petit peu après. Est-ce que c'est dans cette période-là aussi que tu deviens manager, c'est ça?
Ouais.
Comment ça se passe, du coup? Je trouve ça assez ouf. On parle de... T'es toute seule chez Google. D'un coup, t'arrives dans une équipe qui est à l'autre bout du monde. Tu peux pas venir à Paris, mais en fait, tu viens à Paris. Et après, tu deviens manager.
Ouais.
Comment?
Bah, en fait, y a parce que si notre équipe, elle grossit, parce que Google, à cette époque-là, on a tellement de nouveaux employés qui arrivent tout le temps. La demande en formation devient de plus en plus forte.
Ouais.
Et Hector et moi, on n'a pas du tout la capacité de répondre à la demande. C'est juste pas possible. Donc j'ai, donc on embauche deux designers, Peter et Julia, qui sont basés à Londres et avec qui je vais travailler pendant 2 ans. Et aussi on a j'ai quelqu'un qui commence à faire de UX research, qui va nous rejoindre un peu plus tard. Et lui, en fait, il est rentré chez Google dans un programme qui s'appelle le... C'est un programme de rotation, en fait, au sein de tout ce qui est RH.
Okay.
Donc, en fait, c'est des jeunes diplômés. Qui font 6 mois dans une équipe RH, 6 mois dans une autre. Et lui, il est hyper intéressé pour faire de UX research. Donc, il vient dans mon équipe. Et du coup, à un moment, on est 4. C'est fou.
C'est un graduate programme, c'est ça?
Ouais.
Ouais, c'est ça.
Ouais.
Okay. OK, donc vous êtes 4.
Faire 5, ouais, avec lui. C'est un 5, ouais. Ouais.
J'ai 2 questions là-dessus. C'est un, comment t'appréhendes cette nouvelle fonction de manager? Parce que t'as jamais été manager avant.
J'ai jamais été manager, j'ai pas de formation pour être manager. Ça tombe bien parce que je suis dans l'équipe qui crée les formations pour les managers. Donc je sais exactement. Alors bon, c'est quand même plutôt bien fait.
Ouais.
Quand tu deviens manager, t'as plein de formations. On laisse pas les gens comme ça à la dérive, qui t'expliquent un peu les bases. Et puis c'était l'époque où on avait... C'est un truc qui s'appelait en interne Project Oxygen, où ils avaient en fait fait de la recherche et établi les qualités de bons managers.
Okay.
Donc on avait des attributs assez clairs sur ce qu'était un bon manager. Donc un bon manager, par exemple, c'est quelqu'un qui ne fait pas de micromanagement, à bon entendeur. Et un bon manager, c'est un bon coach. Un bon manager, c'est quelqu'un qui se soucie du bien-être des gens et qui le montre, tu vois. Donc, j'ai des guidelines, j'ai moi ma manager qui m'accompagne. Mais c'est pas simple, hein, comme boulot quand même. C'est un peu... moi, je trouve que c'est un travail qui est assez fascinant et qui est assez enrichissant quand ça se passe bien. Quand ça se passe pas bien... Voilà, moi je... Ouais.
Ça s'est passé comment pour toi?
En fait, j'avais 50-50. J'avais 50% où c'était cool. J'avais quelqu'un, des gens qui vraiment qui évoluaient ou... Tu vois, ça roulait.
Ouais.
Et d'autres, je me disais, mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Souvent, parce qu'en fait, les gens sont frustrés. Et puis, la frustration, elle peut être exprimée qu'auprès de ton manager, hein, t'as personne d'autre. Donc, tu deviens un petit peu le...
Le punching ball.
Le punching ball, et je n'aime pas ça. Une chose aussi, un des principes qu'on a, c'est que, on rappelle aux gens, ta carrière, elle t'appartient en vrai. Alors, ton manager, son boulot, c'est de t'apporter le soutien dont t'as besoin, mais ta carrière, elle t'appartient. Donc quand il y a des gens en face qui ne savent pas tout à fait, qui sont plutôt drivés par une forme de frustration plutôt qu'une envie, c'est très, très difficile de gérer. Et en jeune manager sans expérience, j'ai peut-être pas toujours eu les bonnes réactions. J'ai fait de mon mieux. Moi, je leur avais toujours placé, je leur disais, moi, je me perçois comme une sorte de shit umbrella. C'est-à-dire que moi, mon rôle, c'est de vous protéger de toutes les shitstorms qui peuvent vous tomber dessus. Donc je suis là pour faire tampon en fait et pour que vous puissiez vous concentrer sur votre boulot. Ce qui devient aussi compliqué quand on commence à manager, c'est qu'on ne fait plus, on n'exécute plus.
Très bien. Vraiment, la question que je voulais te poser, c'est comment ça se passe la transition de contributrice individuelle même, ouais. Désolé, à manager.
Bah c'est dur. C'est dur parce que le management me prend énormément de temps. Donc j'ai encore quelques projets hein, à moi, mais je...
120%, 20%.
Voilà. Mais quand tu dois lister tes outputs, tes accomplissements, enfin, j'arrivais en fin de semaine, je disais, mais j'ai fait quoi ? J'ai fait des réunions. J'ai fait des réunions, je leur ai parlé, je les ai coachés, mais moi, qu'est-ce que j'ai produit ? Rien. Honnêtement, ça s'est passé un peu dans la douleur. J'étais perdue. J'ai mis un peu de temps à me dire, oh, bah, voilà, maintenant, c'est ça ton rôle et c'est OK, en fait, de plus être juste dans la production. Et puis aussi, ce qui est très intéressant, c'est quand tu te retrouves à manager des gens qui sont tellement brillants, tu te dis, mais moi, je ne suis pas aussi bonne que ça. Surtout, tu vois, en visual design, j'avais des gens qui... Je regardais ce qu'ils produisaient. Je dis, mais moi, je n'ai pas ce niveau de polish et d'exécution. Et
tu l'appréhendes comment, ça enfin...
Au début, un peu la panique. Et puis, en fait, très vite, je me suis rendu compte que j'avais d'autres qualités. Et que c'était OK. Et que ça faisait peut-être partie de l'évolution naturelle des choses. Parce que, par contre, je ne pouvais pas les envoyer en réunion avec certains stakeholders. Parce qu'ils allaient... Ils allaient revenir avec la moitié des informations et ne pas forcément avoir challengé certains sujets. Et ça, moi, je peux le faire. Je pense que voilà, c'est aussi le moment où il y a un petit shift mental qui se fait. Il se dit, bon, moi, je ne suis pas capable de créer des illustrations comme qu'ils font, mais je communique bien. Je sais influencer. J'ai emmené des gens derrière un projet. Je suis capable d'avoir une bonne communication jusqu'à un VP level pour expliquer les besoins et ce qu'on fait et comment les choses avancent. Je sais planifier, je sais organiser, je sais mettre en place des process. Voilà. Alors c'est moins créatif, mais du coup ça permet aux créatifs eux de faire déjà leur travail et puis la finalité quand même, c'est que le produit, il est livré et il correspond aux attentes. Et voilà. Donc, c'est pas un shift très, 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 très simple.
J'imagine. Et du coup, ça te manque pas trop de plus être dans le concret.
Complètement. Donc, dès qu'il y a un petit truc qui traîne, je prends.
Prends.
Ouais. Mais je le fais encore un peu, en réalité. Parce que parfois, ça permet de débloquer. C'est, je me dis, je commençais ma journée par faire un petit design de poster. Et puis comme ça, après, voilà. Je leur vole des petits trucs au passage quand même.
Parce qu'aujourd'hui, tu manages encore ?
Non, je ne manage plus, mais je suis aussi moins... Enfin, je ne suis pas moins dans un truc moins créatif. Si, c'est créatif, mais je suis plus dans la stratégie que dans l'exécution.
Ok.
On y viendra.
On va y venir. est-ce que aussi, parce que là, je comprends vraiment ce que quel est ton rôle dans l'équipe et ce que font les autres membres de ton équipe. Est-ce qu'à ce moment-là, tu as aussi toute la gestion de l'organisation de l'équipe, de l'organisation des méthodos, de l'organisation des rituels
du travail, du workload, s'assurer. Je mets en place des daily check-in. Je mets en place tout un tas de trucs pour. Et aussi, à l'époque, non seulement je manage, mais je ne manage personne qui est physiquement présent.
Ouais, en plus.
J'en ai deux à Londres, un à Mountain View et un à San Francisco. On est à l'époque pré-Covid. Donc bon, je peux... Et après, il y en a un qui est à la Londres. C'est-à-dire que je ne les vois que très rarement, physiquement.
Ça doit être super compliqué de créer une cohésion d'équipe aussi, parce que...
Je ne suis pas du genre à faire « je suis trop bonne en ça, en ça », mais c'est un truc, je suis assez forte.
Ok.
Et parce que ça fait... En fait, j'ai commencé à travailler avec des gens en distanciel bien avant que ce soit...
Quelque chose.
The thing. Et je suis assez... C'est quelque chose qui... Alors, je dis pas que c'est facile, mais c'est quelque chose que je fais assez naturellement, de créer de la cohésion, même en étant loin.
Mais du coup, comment tu fais ça?
Il y a des trucs, hein, tu vois, des trucs hein, bêtes. Tu mets en place un chat. Sur le chat, tu t'assures que tout le monde est là. Je fais des check-ins régulièrement. J'avais des check-ins réguliers individuels, en équipe. Quand je m'adressais à cette équipe, j'essayais aussi de laisser la place à... Enfin, c'était pas hyper structuré, mais enfin, je suis pas quelqu'un de très structuré. Il y a une partie où c'était très clair, c'est bon, alors on en est où tel projet, nanana, et puis bah, le reste, c'est pas grave. Si on a envie de parler de comment la machine à café elle est dégueulasse en ce moment, on va en parler pendant 5 minutes. Enfin, j'ai pas de. Je laissais la place aussi juste à l'humain, et je pense que ça marche. Le jour où je me suis dit que ça marchait vraiment, c'est quand. Je sais plus, il y avait un espèce de petit ragot sur quelqu'un qui allait partir de l'équipe. Et je l'ai su avant les personnes qui étaient physiquement dans les bureaux avec cette personne à Londres. Je l'ai su bien avant tout le monde. Là, je me suis dit, ah, là, c'est que quand même, je... je pense que quand on s'intéresse vraiment aux gens, quand on... Enfin, ce qui est mon cas, j'aime souvent dire, non, j'aime pas les gens. Mais en vrai, non, j'ai une vraie passion pour les personnes. Puis chez Google, c'est facile. Hein. Les gens avec qui tu bosses, c'est toujours des gens absolument brillants. Ça m'arrive très rarement de me dire, ah, mon Dieu, cette personne est bête. Ça, en 18 ans, ça m'est arrivé très, très peu. Donc, quand tu es toujours avec des gens qui sont hyper intéressants, c'est stimulant, c'est aussi facile de dire, enfin, tu vois, de s'intéresser et d'essayer d'en apprendre plus sur eux. Donc, je pense que quand tu montres aux gens que they matter, enfin, tu vois, qu'ils comptent, ben, ça roule, quoi.
Ok, très bien. T'es resté 10 ans dans l'équipe People Development ?
Je suis restée officiellement jusqu'en 2020. En réalité, entre 2019 et 2020, j'ai fait un burn-out de fou.
Ok. Lié justement à ce poste de manager ou...
Non, à ce moment-là, j'étais... Ouais, sinon, je suis encore manager. En fait, j'ai perdu ma mère en 2018. Après plusieurs années de lutte contre un cancer et... toute personne qui est passée par là, c'est que quand t'es un aidant, quand t'es quelqu'un qui accompagne, c'est très compliqué. Donc j'avais quand même encore des enfants jeunes, une maman mourante, des voyages aux États-Unis assez réguliers, un boulot assez sous pression. Et donc en 2018, je perds ma mère et 2019, je retourne bosser et 2019, je m'écroule. Je suis aussi diagnostiquée avec un trouble bipolaire que je ne savais pas que j'avais. Je vis avec la dépression depuis trop long, enfin je sais même pas, depuis toute ma vie, je pense. Et le trouble bipolaire, il m'est diagnostiqué... en plein dans ce burn-out et donc je suis obligée de m'arrêter pendant plusieurs mois parce que je ne suis pas en capacité de travailler du tout quoi.
Okay.
Donc il y a ça, puis bon, il y a en fait ce qui a aussi mené au burn-out, c'est que j'avais eu des petits problèmes avec une manager pas forcément bienveillante, on va dire, et en fait tant que ma mère était là et que j'étais occupée avec ma vie perso, je pense que je me rendais compte qu'il y avait un problème, mais j'avais pas le temps de le gérer. Et quand je suis revenue après, je me dis, eh oh, là ça va pas du tout en fait madame, là j'ai le temps maintenant, c'est bon. et du coup tout ça l'un dans l'autre, j'étais en arrêt pendant un moment, et quand je suis revenue, je suis pas retournée dans cette équipe. J'ai pris la décision pendant mon arrêt de changer d'équipe en fait.
Ok, ouais. Très bien. T'essayes de rebondir là-dessus.
Ouais, mais...
Alors avant de parler du changement d'équipe, j'aimerais parler aussi d'une des raisons pour lesquelles je suis là aujourd'hui pour parler avec toi, c'est que à côté de ton taf, chez Google, tu es Diversity, Equity and Inclusion Advocate.
Ouais.
C'est ça. Est-ce que tu peux déjà me dire ce que c'est ?
Tu ne le sais peut-être pas, mais Design Journeys est un podcast que je produis sur mon temps libre et de manière totalement indépendante. Alors si tu souhaites m'aider dans cette aventure, sache que j'ai ouvert une page KissKissBankBank sur laquelle tu peux faire un don pour soutenir l'émission. Cela m'aidera à payer les frais d'hébergement du podcast, du site internet, mais également à préparer de nouveaux projets que j'ai en tête depuis un petit moment. Si ça t'intéresse, tu trouveras le lien dans la description. Allez, maintenant je te laisse avec la suite de l'épisode.
Ah ouais, d'accord. Alors c'est pas un titre officiel, mais
non, c'est pas un poste, mais c'est un.
C'est voilà, je fais partie des personnes qui se font la voix de toutes les questions qui ont rapport avec la diversité et l'inclusion dans Google. Une des choses que j'ai faites, alors vous ne me voyez pas, chers auditeurs, mais moi je suis une femme noire et j'ai parlé tout à l'heure du manque de diversité à Dublin, et c'était une des raisons qui a fait que je me suis dit, en fait, ça va pas, c'est compliqué d'être tout le temps la seule. Je me souviens que ma fille, quand elle avait 3 ans, j'étais en call avec une collègue américaine noire, et elle regarde, fait « C'est ta sœur ?» Et je dis « Non, toutes les personnes noires ne sont pas de la famille. » Mais je me rends compte, en fait, la gosse ne voit jamais de personne qui ressemble à sa mère, en fait. Et donc, du coup, dès qu'elle voit... Bon, donc tout ça, je me dis « Mais non, en fait, j'aimerais bien que ma fille grandisse dans un monde qui lui ressemble un peu plus, quoi. » Donc je rentre à Paris. Sauf que là, gros choc, quand je passe les portes de Google Paris, il y a un gros manque de diversité auquel je ne m'attendais pas. Parce que je me disais, bon, la France est un pays extrêmement divers. Google, société justement plus avancée sur ces questions, une société américaine, où voilà, on fait attention à ce genre de choses. Et je passe les portes de Google Paris et en fait, je suis encore toute seule. Enfin, en fait, on peut se compter sur les doigts d'une main à l'époque, sauf si on regarde côté sécurité, ménage, le classique. Ça me frappe quand même beaucoup, ça me chafouine, on va dire. Je suis pas, il y a quelque chose qui m'est extrêmement mal à l'aise, parce que je me dis là, il y a quelque chose qui colle pas. On ne va pas me faire croire que des talents dans la population d'origine africaine, il n'y en a pas. Et que les gens qui me ressemblent, ils sont pas capables de bosser dans la tech. C'est pas acceptable pour moi. Et je crois qu'en 2016, il y a la mort d'Adama Traoré. Et 2017, il y a l'affaire Théo. Et quand t'es afro-descendant en France, c'est des choses que t'entends et qui forcément te marquent. Très tôt, on apprend à les glisser sous le tapis et tu vas travailler, ça c'est personnel et tu le laisses à la porte. Et je regarde mes emails et j'ai un collègue américain qui m'écrit, collègue noir américain, parce qu'on en fait on a dans le sein de Google, on a ce qu'on appelle des employee relation groups, ce sont des groupes d'affinité, dont le Black Googler Network. Je vais expliquer un peu pour que les gens n'aient pas peur. Ce n'est pas du communautarisme. Attention. Mais donc, j'ai ce collègue de BGN, du Black Googler Network, qui m'écrit en disant « Je vois ce qui se passe en France en ce moment. Comment ça va? C'est pas trop dur ?» Et là, donc, je m'effondre. Je me dis « Ah donc là, tous mes collègues français qui savent, hein, parce qu'eux, ils ont les infos, ils savent très bien ce qui se passe. » Personne se dit « Ah, c'est vrai que cette personne peut-être serait concernée », donc personne n'en parle. Mais par contre, quelqu'un qui est de l'autre côté du monde, il va se soucier de mon bien-être. Là, je me dis « Bon, en fait, un des gros avantages de ces groupes, c'est de créer un espace qui soit un espace de parole pour les personnes concernées. C'est aussi un espace qui permet de porter certains sujets, comme par exemple le manque de diversité. Parce que malheureusement, si on ne s'organise pas nous, personne ne va le faire. Il n'y avait personne qui était en train de travailler avec la direction de Google France sur le manque de diversité à l'époque. Donc je me dis, ok, on est 5, mais je vais créer un chapitre du Black Googler Network en France, à Paris. Et c'est à partir de ce moment-là où j'ai commencé à être beaucoup plus vocale sur les questions de diversité et d'inclusion. Et aussi, j'ai participé à d'autres programmes. Je suis aussi devenue formatrice pour deux formations internes. Un, c'était Allyship 101, donc comment devenir un bon allié en fait pour toutes les causes qui ont à voir avec la diversité. Et un autre en fait qui était vraiment ciblé sur les managers pour les aider à se défaire de leurs propres biais et à être plus inclusif avec leurs équipes. Donc c'est à partir de ce moment-là que ce travail en fait d'advocacy, de vraiment de porter ces sujets, il a commencé.
Très bien. Et est-ce que c'est ça qui t'a donné envie, en particulier une fois que t'as fini ton job précédent et que t'es revenu chez Google, qui t'a donné envie de rejoindre l'équipe Product Inclusion and Equity?
Ouais. Alors c'est marrant parce qu'en fait parfois tu t'en rends pas compte sur le coup, mais la vie s'aligne quand même assez bien. Mmh. Donc 2017, je lance le Black Google Network. Je suis assez énervée. Hein. Je lis Césaire, je lis Fanon, J'ai grandi, je suis arrivée en France en 1983 dans une toute petite ville du fin fond de la France, à Clamecy dans la Nièvre. Ma mère et moi, on était les premiers Noirs qui débarquaient dans cette ville. Autant dire que l'expérience n'a pas été des plus joyeuses. Les gens étaient curieux dans le sens malsain de « Ah mon Dieu, il y a des Noirs enfin, !» Moi, à l'école, les enfants me touchaient puis regardaient leurs mains pour voir si la couleur partait. Enfin, 1983, donc...
Mon Dieu.
Donc, voilà, moi j'ai grandi dans cette France-là, mais aussi avec le truc de fallait s'assimiler, il fallait surtout pas rappeler nos origines, il fallait faire mieux, et puis surtout on parle pas de racisme, on n'en parle jamais. C'est important parce que si on en parle, je sais pas trop les générations d'avant en fait, pourquoi il fallait pas en parler. Je pense qu'il fallait pas faire de vagues, fallait se contenter de ce qu'on nous donnait. Donc moi j'ai grandi là-dedans, et en fait à partir de 2017. Je commence à lire, je commence à m'instruire sur la question, et puis je commence à déconstruire tout un tas de trucs, en fait. Je me dis, mais en fait, cette prof de maths, peut-être elle était raciste. Donc, pour la blague, j'avais une prof de maths en troisième. En troisième, j'ai décidé que j'irais faire un bac à appliqué dans le lycée à côté de chez moi. Ma prof de maths m'avait dit, devant ma mère, Votre fille ne sera jamais prise en art appliqué. Si elle est prise, elle n'aura jamais son bac. Et même si elle a son bac, elle n'en fera rien.
Super encourageant.
J'ai 14 ans. Pourquoi la dame, elle m'en veut comme ça? À l'époque, je me disais qu'il y avait quelque chose de fondamentalement mauvais en moi pour que cette personne se dise que je ne ferai rien de ma vie. Et en déconstruisant tout ça, cette prof revient en ma tête. Je me dis, ah mais peut-être en fait... Peut-être la dame. Voilà. Donc c'est un. Il y a énormément de changements qui se passent et ça devient vraiment. Ça devient des questionnements assez importants. Mmh. Et là, donc tout ça, tout en accompagnant ma mère, je me dis, là, il y a quelque chose qui manque dans ce que je fais, dans mon travail. Il manque du sens, en fait. Et moi, j'aimerais bien m'orienter plutôt là-dedans. Donc, au moment où j'essaye de changer de poste, je postule aussi à des côté RH. Donc, on a un poste qui s'appelle Diversity Business Partner. Donc, c'est un poste, en gros, de plutôt program manager, de réfléchir aux grandes stratégies diversity and inclusion pour Google. Mais j'ai pas les compétences pour. Mais je postule, j'y vais. Je n'ai jamais peur de rien, visiblement. Mais évidemment, j'ai pas. Enfin, on me prend pas. J'ai pas. Parfois, mon profil intéresse, mais j'ai pas assez de maîtrise de ce type de travail pour être prise. Et juste avant que je fasse mon burn-out, je suis aux États-Unis. Dans une grosse conférence sur le justement avec toutes ces ERG, donc ces Employee Relation Group, et il y a une personne qui s'appelle Annie Jean-Baptiste qui est là pour présenter le travail de Product Inclusion and Equity. Je l'écoute fascinée. Je dis, mais c'est génial. Mais oui, moi je veux faire ça, je veux réfléchir à ces questions, continuer à me servir de mes compétences en design. Mais quand même participer aux questions de diversité et d'inclusion.
C'est ça, juste, je te coupe. Vu que tu as eu de l'explication et tu es en train de nous le dire, est-ce que tu peux nous expliquer dans la foulée ce que c'est que l'équipe Product Inclusion and Equity? Parce qu'il y a une page Google qui est hyper bien faite.
Ouais.
Mais.
Ça reste très. Alors, Product Inclusion and Equity, c'est quoi exactement? En fait, la mission de Google, c'est d'organiser les informations à l'échelle mondiale dans le but de les rendre accessibles et utiles à tous. Sauf qu'en réalité, le « à tous », pendant longtemps, il n'était pas vraiment universel, ce à tous. On ne réfléchissait pas vraiment à qui y avait dans ce tous. Et la mission de mon équipe, justement, c'est de s'assurer que tous les utilisateurs soient inclus dans nos produits, dans la façon dont on développe nos produits, et qu'ils aient, et que chaque type d'utilisateur, en fait, ait une expérience qui soit la meilleure. Ce qu'on fait, c'est qu'on met au centre du développement produit la parole des communautés qui ont été marginalisées et historiquement ignorées en fait, de la tech. La tech, historiquement, c'est quand même des jeunes hommes blancs de la Silicon Valley entre eux. Et donc il y a énormément de communautés qui n'ont pas été intégrées dans ce processus de développement de produits. Et ça part aussi d'un constat assez simple, c'est que les employés de Google ne sont pas représentatifs du monde. Et que quand on veut vendre des produits au monde entier et qu'on n'est pas représentatif de ce monde entier, il faut à un moment s'arrêter et réfléchir à du coup comment est-ce qu'on fait pour équilibrer les choses.
Ok, je te reposerai d'autres questions là-dessus, mais je te laisse finir ton histoire.
Je rencontre Annie fait cette présentation où elle explique ce que c'est Product Inclusion and Equity c'est génial parce qu'on a un système interne. Hop, je trouve son adresse email. Pendant qu'elle parle, je commence à écrire mon email en disant please be my best friend, hire me. J'attends qu'elle finisse évidemment pour l'envoyer parce que sinon c'est mal poli. Et je lui envoie. Ça c'est au mois de juin. Au mois de juillet, je retourne aux États-Unis. Et on se rencontre pour la première fois. Et elle a un peu l'expérience de l'équipe dans laquelle je suis. Elle comprend mes challenges. J'ai pas besoin de lui expliquer vraiment. Elle voit et elle me dit écoute, pour l'instant, j'ai pas de poste ouvert, mais on reste en contact. Et voilà, quand ce sera possible, on le fera. Quand je suis en arrêt, en fait, je la recontacte en me disant écoute, là, c'est vraiment plus possible. Je ne veux pas retourner dans mon équipe d'avant pour plein de raisons. Et puis, là, c'est ça que je veux faire. Je veux ce qui est toujours très drôle, c'est que une fois que j'ai réalisé que c'est ce que je voulais faire, je voulais plus rien faire d'autre. Je voulais pas retourner. Le poste, j'y étais depuis 10 ans, j'avais fait largement le tour, quoi. Qu'on commençait à partir sur des projets qu'on avait déjà plus ou moins résolus 8 ans avant. Je me disais non, c'était plus possible. Donc voilà, ça se fait. Et je rentre dans son équipe en septembre, donc du coup 2020.
Très bien. Super. Je vais te poser plein de questions aussi sur ton rôle. Si on revient du coup sur ce que tu disais tout à l'heure, qui est de s'adresser à toutes les populations qui sont marginalisées. Est-ce que tu peux un peu donner des exemples? Donc là, j'ai bien compris que ça peut être ta couleur de peau, mais est-ce que ça peut être quoi? Ton origine sociale, ton âge?
Ça peut être l'origine sociale, exactement. On a pas mal de principes guides, en fait. Par exemple, si tu vends un produit et que toutes les pages d'aide sont en anglais ou en français, dans une langue qui est trop compliquée, ça veut dire que les personnes qui sont pas allées à l'école très longtemps, elles n'ont pas à avoir accès à l'information parce que c'est juste dans une langue qui ne leur parle pas. Donc un de nos principes, c'est d'avoir, il y a un certain niveau en fait de literacy où on s'assure qu'on est à ce niveau-là pour faire en sorte que tout le monde puisse avoir accès à l'information. On va prendre en compte le body type. La Fitbit par exemple, c'est une montre, on va s'assurer que le bracelet qui est vendu avec, il fonctionne pour les petits poignets comme les gros poignets. Il n'y a pas de raison qu'on reste coincé dans une espèce de marge qui serait la norme et d'exclure du coup les marges en fait.
J'ai une question à te poser, je ne sais pas comment la poser autrement, mais c'est quoi la différence avec l'accessibilité ? Parce que c'est le truc qu'on nous sort dans tous les sens. Là, j'ai l'impression que se dire que tout le monde puisse le mettre, que tout le monde puisse comprendre. Aujourd'hui, on appelle ça l'accessibilité, que ce soit en français ou en anglais. C'est quoi la différence ?
Alors, l'accessibilité, en fait, c'est la partie de notre travail qui va se focus plus sur le handicap.
Ok.
Donc, c'est s'assurer, effectivement, que quand tu créer un site ou une application, une personne qui utilise un screen reader parce qu'elle est malvoyante, ce soit accessible. Si tu as des vidéos qui aient des captions pour que les malentendants puissent aussi avoir accès au contenu. Ça, c'est la partie accessibilité. La partie product inclusion and equity, c'est de prendre en compte tous les aspects de ce qui fait un individu. Donc ça va être effectivement ses origines sociales, sa culture, sa langue, sa religion, sa couleur de peau, son orientation sexuelle. Quand tu crées un produit et que, par exemple, tu peux choisir un pronom, quel pronom tu vas proposer ? Il, elle, seulement ? Et du coup, on met en marge toutes les personnes non-binaires. Voilà. Alors en France, à chaque fois, je vais remplir un questionnaire en ligne et on demande sexe, femme, homme. Enfin, on est en 2023 et il n'y a encore que deux options. Voilà, donc ça, c'est les choses auxquelles on va penser. C'est un principe qui est vraiment intéressant dans le design, je pense, c'est que quand tu designes pour la marge, en fait, tout le monde bénéficie. C'est un bénéfice pour tout le monde. En anglais, ils ont ce qu'on appelle l'effet de curb effect. C'est, tu sais, sur les trottoirs, alors je ne sais pas comment ça s'appelle en français, mais le trottoir, il y a un petit dénivellement.
Ouais.
Au départ, ce dénivellement, en tout cas aux États-Unis, ça avait été créé pour les personnes en fauteuil roulant.
Ouais.
D'accord ? Il y a des activistes en Californie qui allaient la nuit péter les trottoirs pour installer ça parce que les autorités ne le faisaient pas. Et du coup, quand tu étais en fauteuil roulant, tu n'avais pas d'autonomie. Mais en réalité, tout le monde l'utilise. Tu as une poussette. T'en as besoin, t'as un vélo, t'en as besoin, t'as un livreur, t'en as besoin, t'as une valise, t'en as besoin. Et c'est-à-dire que même, il y a des recherches qui démontrent que même les piétons qui n'ont rien, ils vont plutôt préférer traverser à ce niveau-là plutôt que d'avoir à descendre une marche. Donc ça, c'est un très bel exemple de design qui, effectivement, au départ, était pour des personnes à la marge, et je mets un guillemet, mais qui améliore la vie de tout le monde. Les captions sur les vidéos, au départ pour les personnes malentendantes, mais on l'a tous fait, on est dans le métro, on ne peut pas mettre le son, on est dans un endroit où il y a trop de bruit, j'ai mon bébé dans les bras qui est en train de dormir et je veux quand même regarder mon truc, ça sert.
Ouais. Je me permets de dire que je vais mettre dans la description, c'est Microsoft qui a travaillé là-dessus, qui a fait un super
guide là-dessus. IBM aussi, ils sont très très bons.
Donc, je regarderai celui-là aussi, mais effectivement... Je digresse et je parle de ma vie, mais dans ma boîte, tu vois, quand on parlait justement, je pense à tort, je ne parlais que d'accessibilité, mais où on disait, par exemple, nous, on s'adresse à des jeunes parents, donc des jeunes mamans qui tiennent un enfant, et on disait, si tu conçois l'app pour quelqu'un qui a un bras en moins, en fait,
Et ça marche pour celle qui a un enfant dans les bras ? C'est ça ? Pardon. Et c'est vraiment important de se dire... c'est des améliorations qui sont bénéfiques pour tout le monde. On le voit même sur j'essaie de trouver d'autres alors Google a sorti l'année dernière le Pixel 7 Pro avec tout ce travail de Real Tone. Donc c'est une technologie qui permet capturer les tonalités de peau de façon très réaliste.
Okay.
On a travaillé pour s'assurer que tout type de peau soit capturé. Si tu regardes l'histoire de la photographie, pendant longtemps, les peaux noires, ça fonctionnait pas, quoi.
Bah, t'as eu pas mal de sujets comme ça où les IA en fait faisaient en sorte que la peau était blanche, enfin blanchissait la peau.
Blanchissait la peau. Ouais. Toujours, on va essayer de. Et donc en faisant ça, on nie l'existence de personnes. Enfin, les personnes à peau foncée, elles existent. Et en améliorant la caméra pour capturer tous les types de peau, bah, on a juste une caméra, on a juste un appareil photo qui est vachement plus performant et c'est bien pour tout le monde. Donc voilà.
Super. Je vois sur quoi vous travaillez, je vois à peu près comment vous travaillez, mais est-ce que tu peux m'expliquer, encore une fois, parce que Google, c'est énorme, il y a des produits partout. Je me dis, déjà, combien vous êtes dans votre équipe ?
On n'est pas nombreux. On n'est pas nombreux du tout. En fait, nous, on va travailler de façon horizontale, c'est-à-dire qu'on appartient à aucune équipe produit, et on travaille... on a aussi des... Donc nous, on est l'équipe Central Product Inclusion and Equity.
D'accord.
Il y a des équipes Product Inclusion and Equity qui existent dans certaines business units. Donc, on a des équipes partenaires. Bon. Nous tous, on n'est pas, par rapport à l'échelle de la boîte, on n'est pas nombreux. Donc, justement, une des choses qu'on fait, c'est comment on éduque les gens pour que ça fasse partie, en fait, de leur pratique du design et de leur pratique de conception de produits. Comment est-ce qu'on automatise une partie de ce travail ? Donc on essaye de se rendre un petit peu redundant et inutile, mais l'idée c'est que plutôt que d'avoir des équipes qui se focalisent dessus et qui sont comme on est comme une équipe en fait de consultants internes, c'est que les gens apprennent et que ces pratiques de en fait. Pour l'instant, toutes les équipes produits ne le font pas.
Mais comment vous faites pour... Tu vois, j'ai l'impression que cette partie-là, c'est un peu ce qu'était la user research il y a encore quelques années. C'est-à-dire que les gens ne le faisaient pas, tu étais obligé de venir les voir. Comment vous faites pour vendre l'idée ? Parce que ça peut paraître comme une contrainte. Tu vois. À tort, hein. À tort, mais ça peut paraître comme une contrainte de se dire « Ah non, bah, y a encore des trucs à prendre, on n'a pas pris en compte. Bon, c'est pas grave, c'est pas la majorité des gens qui nous utilisent. Pourquoi on le ferait ?»
Ouais. Alors, on a plusieurs outils pour convaincre. Un outil, c'est le risque. Qu'est-ce qui se passerait si vous ne faites pas ce travail ? Et malheureusement, Google a été confronté à un problème en 2017 avec Google Photos qui avait catégorisé une jeune afro-américaine en gorille. Ça, aujourd'hui, ça reste un incident. Alors, c'est dommage, mais moi, je m'en sers assez souvent comme exemple. Est-ce que tu as vraiment envie d'être le PM qui a sorti le produit qui va être problématique ? Non. Après, on ne veut pas que ce travail, ça devienne juste du risk management, en fait, parce que ce n'est pas la bonne approche. L'autre outil dont on se sert, c'est que des produits qui ne sont pas performants pour tout le monde, ils ne sont pas achetés par tout le monde et c'est juste des parts de marché que vous êtes en train de rater. Et en réalité, on a des chiffres, en tout cas sur le marché américain, ça représente énormément de millions de dollars manquants. Parce que ce soit sur les populations noires ou sur les populations latino, on n'est pas aussi performant que d'autres produits.
Okay.
Donc voilà, c'est un outil. Moi, je fais pas ce travail pour ça, mais bon, j'utilise les arguments qu'il faut pour convaincre tout le monde.
Et du coup, dans ce mode un peu consulting, comment vous intervenez ? C'est une équipe qui va faire appel à vous, c'est vous qui allez vers une équipe ou...
Il y a un peu des deux. En fait, on a des partenaires un peu historiques. Il y a des équipes avec lesquelles on travaille beaucoup, comme les équipes Nest, les équipes photo. Là, on a des relations vraiment... voilà, ça fait longtemps qu'on travaille avec eux. Et on se sert d'eux, en fait, comme ambassadeurs auprès d'autres.
Ouais, c'est ce que j'allais dire. C'est un peu les équipes qui ont eu des problèmes au départ.
Exactement. Qui maintenant disent, maintenant, on travaille avec cette équipe. Et regardez, c'est vachement mieux. En termes de user satisfaction, on progresse.
Et dans ce cas de figure, ils viennent vous voir et ils font quoi ? Ils vous disent, on est en train de bosser sur ça, aidez-nous. Okay.
Non, ça peut être ça. Parfois, on est proactif. On sait, là, avec tout ce qui est intelligence artificielle, on est à l'affût, on regarde voilà, tous les projets en interne, on essaye de, on se rend disponible, mais c'est énormément de, c'est vraiment du réseau, c'est de la relation, donc c'est construire des relations sur le long terme avec les IP, avec on a aussi ce qu'on appelle les executive sponsors qui sont dans les équipes, qui sont là pour aussi faire le travail pour nous, de dire c'est important, il faut le faire. On a aussi chez Google, on a des OKR, des objectifs, et on en a un en fait qui est au niveau global, donc toute équipe en fait se doit de contribuer à cet objectif-là, donc ça nous rend aussi le travail un peu plus facile.
Okay.
C'est-à-dire qu'on leur dit, pour votre contribution à cet objectif-là, okay, vous avez besoin de nous.
Ouais, donc tu as un objectif de boîte et tu as, on va dire, des sortes d'ambassadeurs pour chaque équipe qui, à force de discuter avec vous, font grossir le...
Exact.
Ok. Il y a une question que j'ai envie de te poser qui est plus franco-française.
Vas-y.
Tu viens un peu d'en parler, c'est qu'aux États-Unis, c'est, entre guillemets, pas trop compliqué parce que tu as le droit de faire des statistiques sur les origines des personnes, enfin, sur à peu près tout. En France, tu n'as pas le droit de faire ça. Du coup, c'est un peu plus compliqué d'apporter des chiffres. Donc, comment tu fais, en fait ? Est-ce que tu te focalises uniquement sur le marché américain et donc, du coup, tu perds une partie de la cible ? Est-ce que tu te focalises, tu grossis les chiffres ? Est-ce que tu vas voir dans d'autres pays européens ? Je ne sais même pas si on a le droit de le faire dans d'autres pays européens.
Non, en Europe, ce n'est pas possible.
Ok, donc, qui est quand même, du coup, un des plus gros marchés mondiaux avec les États-Unis. Comment tu fais quand tu n'as pas de data alors que ton rôle, en fait, c'est de t'occuper de ces personnes-là ou en tout cas de les mettre en avant ?
Alors, pour l'instant, on a une approche qui est très US-centric du fait, justement, ce que tu dis, que la data n'est pas disponible pour le reste du monde, que la majorité de l'équipe est aux États-Unis. Mais justement, c'est quelque chose qu'on essaie de changer. Une des choses que j'ai faites, moi, c'est... Google publie chaque année their Diversity Report. Donc, c'est un rapport qui te dit où on en est dans la diversité chez Google. Et il y a quelques années, justement, quand j'ai fait mon training de manager, pendant ce training, on montre les chiffres. Ils sont pas, en fait, c'est pas joyeux. Hein. Je crois que les populations noires chez Google, c'est 4%. C'est pas beaucoup. et donc, on montre les chiffres. Et puis, il y a quelqu'un, on est tous à Paris, il y a quelqu'un qui dit « Oui, mais bon, ça c'est les États-Unis, en France, ça n'a rien à voir, on n'a pas du tout ces problèmes-là. » Donc je lève la main et je dis « Bon, en tant que seule personne de couleur dans cette pièce, on n'a peut-être pas les chiffres, mais vous avez quand même, vous voyez ce qui se passe juste dans les bureaux, juste de marcher dans les bureaux, vous voyez bien qu'il y a un problème. » Donc l'excuse des chiffres, moi je l'accepte plus. On dit ok, on n'a pas les chiffres et on ne va pas les chercher parce qu'on ne peut pas le faire légalement, mais vous voyez bien ce qui se passe en fait. Et puis il n'y a pas de raison que ce soit si différent en fait. Si on regarde les chiffres américains et les chiffres français, je pense qu'on trouverait des choses assez similaires. Et puis en dehors en fait même de ces chiffres, c'est l'idée, tu vois, de ce qu'on fait, c'est de faire en sorte que tout le monde soit entendu, que tout le monde puisse se retrouver dans nos produits. Donc, quand tu fais des focus groups, quand tu fais du testing, tu t'assures que ton panel il soit divers. Alors oui, malheureusement, tu ne peux pas dire aux gens non. Mais il y a d'autres proxys qui peuvent être utilisés. Je t'avoue, je ne sais pas trop ce que les agences avec lesquelles on travaille en Europe, elles utilisent, mais il y a d'autres façons de faire. Tout dépend si tu vas recruter, par exemple. C'est tout simple. Hein. Donc, l'excuse de pas de chiffres, on la laisse plus passer maintenant. On dit, c'est pas parce que vous n'avez pas les chiffres, on va faire un effort quand même. On va essayer de trouver une autre façon de faire.
Et ça renvoie... Sur le site de Google Product Inclusion and Equity, il y a une phrase, c'est « Chez Google, nous n'en sommes qu'au début de cette aventure. » J'aimerais bien ton avis sur pourquoi c'est si compliqué d'être à la fois inclusif. J'ai traduit « equity » par « équitable ».
Équité, ouais.
Pourquoi ?
Pourquoi c'est si difficile ? Bah parce que la majorité des personnes qui créent les technologies d'aujourd'hui sont complètement... ne se rendent pas compte de leurs privilèges, en réalité. C'est facile pour quelqu'un comme moi, qui vient d'un milieu social plutôt pauvre, femme noire, neurodivergente. Bah oui, j'aborde la vie et la vie m'aborde d'une façon assez spécifique. Et évidemment, quand je design, les questions d'altérité, elles font partie intégrante de qui je suis. Je pense que quand on est quelqu'un qui se considère être la norme, qui se dit que tout le monde va à la boule tous les week-ends et va au ski chaque année, et que... mais bien sûr, il suffit juste de travailler très dur pour avoir un bon salaire. Quand on ne se rend pas compte, en fait, de la diversité des expériences, on ne peut même pas aborder ce travail. Et un des problèmes aussi, je pense, qui est vraiment central, c'est que tant que c'est des gens qui me ressemblent, qui font ce travail seuls, on n'avancera pas. Alors, on fait toujours cet appel aux alliés. Moi, je n'ai pas envie de les appeler les alliés, mais je sais que un homme blanc hétéronormé, s'il vient ton podcast et dit ce que je dis, ça aura plus de poids. En France, on a tendance à dire oui, mais bon, en gros, t'es noire, t'es pas objective sur la question. C'est trop proche, il y a trop d'émotions, il y a trop de nanas. Donc si quelqu'un n'étant pas concerné vient et commence à se faire l'avocat de tout ça, ça va être pris d'une façon très différente. Moi, on peut toujours dire « Ouais, mais bon, toi, t'es biaisé, t'es concerné, quoi. » Donc, je pense que c'est le travail de tout le monde, en fait. Et malheureusement, pour l'instant, ce travail, il est porté essentiellement par ceux qui sont à la marge.
Et justement, c'est la question que je voulais te poser. J'ai l'impression que vous êtes une petite équipe chez Google. Google, c'est une grosse boîte. Je me dis, si t'es seul designer dans une boîte, et que tu as envie de mettre au centre l'inclusion, l'équité, tu donnerais quoi comme conseil? Parce que moi, je le vois pendant longtemps, dans la plupart des boîtes dans lesquelles j'étais, déjà ne serait-ce que de parler d'accessibilité, c'était une cata.
Ouais.
Et là, d'agrandir le scope, c'est encore plus compliqué. Est-ce que tu as des conseils ou en tout cas des éléments qui pourraient aider les gens qui veulent justement progresser ou mettre ça en avant dans leur boîte, de le faire?
C'est pas facile, hein, je t'avoue, même au niveau Google France, sur les questions de diversité et d'inclusion, on avance, mais on avance doucement. J'aimerais bien avoir une réponse qui soit « oui, faites ça ». Et la réalité, c'est que je l'ai pas, parce que même moi, je me débat encore avec ça. Une des choses que j'essaye, c'est l'éducation. En fait, il y a un truc qu'il faut mettre en place assez vite, c'est que ces discussions, elles sont difficiles. Les gens vont être très inconfortables. Surtout en France, on a énormément de difficultés. On arrive à parler de la parité de genre. Alors le genre, on y arrive très, très facilement. Le reste, là, d'un seul coup, il y a une espèce de panique. Moi, ce que j'essaie de faire, c'est de comprendre en fait d'où vient la réticence. Est-ce que c'est une réticence parce qu'on a peur de ce qu'on va apprendre? Ou est-ce que c'est une résistance parce qu'on sait ce qu'on va apprendre et que ça ne nous intéresse pas? Si c'est quelqu'un qui fait bloc en face parce qu'il n'a absolument pas envie, parce qu'il sait très bien qu'il n'a pas envie, il n'y a pas grand-chose à faire, je crois, honnêtement. Mais quelqu'un qui a peur, il faut réussir à établir un dialogue, de dire que c'est OK de ne pas avoir la bonne réponse, que c'est OK de faire des erreurs. En fait, on ne vise pas la perfection. Hein. On est vraiment... justement dans ce début d'aventure à comment on construit quelque chose qui va aller vers le mieux. Mais on n'a pas encore toutes les réponses. Puis après, c'est aussi accepter que ça va prendre du temps. Ce qui est assez déprimant, hein, honnêtement. Ouais. Parfois, je me dis, j'ai déjà 43 ans. j'aimerais bien voir un petit peu des progrès avant d'aller à la retraite. Mais bon, ça va, visiblement, on va rester un petit moment. Donc, je pense que, ouais, il y a une partie... Il y a une partie où il faut éduquer et mais à nouveau enfin moi quand je vais voir le leadership en leur parlant de toutes ces questions, c'est pas accueilli de la même façon que si toi t'y allais, tu vois.
Ouais.
Et donc les alliés entre guillemets, c'est là où il faut se mettre en action, se servir de la data qui est disponible aussi.
Ouais.
Ça, même si c'est aller chercher dans de la data à l'étranger, parce que nous on n'a pas, on peut toujours extrapoler un petit peu. Hein. Les choses changent un tout petit peu, mais je t'avoue, c'est frustrant parce que je, en tout cas pour la France, ça va prendre du temps, quoi.
Je me permets un parallèle de raconter ma vie. Du coup, j'ai l'impression que c'est un peu la même chose que pour l'écologie. Tu vois, de se dire il faut arrêter la viande, mais en fait t'es pas obligé d'arrêter la viande d'un coup, tu peux arrêter d'en prendre petit à petit.
Petit à petit.
Et j'ai l'impression que c'est un peu ce que t'es en train de me dire. Et j'ai remarqué ça aussi dans la boîte dans laquelle je suis aujourd'hui, et je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, où quand tu fais une présentation, je sais que moi au départ on n'arrêtait pas de me dire ouais, enfin dans ma boîte on accueille bien ces sujets d'égalité, d'équité, d'inclusion. Mais où quand j'étais là, genre oui, maintenant quand on développe un produit, il faut penser aux gens qui sont aveugles, par exemple. Voilà ce qu'il faut faire. En fait, c'est là genre ouais, mais en fait on n'a pas le temps. Et en fait, quand tu te rends compte que c'est juste une ligne de code avec un texte à rajouter, tout le monde est là genre ah ouais, en fait on peut le faire, bah oui.
Oui,
voilà. Et donc c'est comme ça que ça rentre petit à petit.
Ouais. Et ben oui, non, en fait c'est parfois juste aussi de démystifier,
ouais,
la difficulté du travail, et puis aussi le penser ce travail comme faisant partie intégrante du processus total, plutôt que de se dire bah on va faire notre truc puis à la fin on va, enfin tu vois, ben non, si c'est pris dès le départ, si c'est dans ton code base, si c'est dans... voilà, il y a ça devient plus quelque chose que tu rajoutes en fait.
Et après bon, je trouve aussi, et encore c'est mon exemple, mais parfois on l'oublie, bon bah on est un peu speed, on l'oublie, mais en fait on se dit à la fin genre on l'a pas fait, on va le rajouter, et on fait tout de suite un ticket ou quoi, qu'importe, pour le faire en se disant ok, on n'y a pas pensé, mais là maintenant on y est, il faut qu'on le fasse. Et je pense que c'est tu te loupes, mais tu sais que tu l'as loupé et que c'est pas un truc qui va être remis un jour peut-être.
Exactement.
Tout à l'heure tu disais que tu designais plus trop et qu'aujourd'hui t'es plus sur un rôle stratégique, et on n'a pas trop parlé de toi là sur cette fin.
Exactement.
Est-ce que tu peux m'expliquer toi aujourd'hui ce que c'est que ton rôle, qu'est-ce que ça veut dire être dans la stratégie de cette équipe?
Moi je suis, alors non seulement je suis dans la stratégie, mais je suis surtout sur la partie measurement, donc c'est comment on mesure si ce travail il est fait, et comment
c'est hyper intéressant.
Alors pour le coup c'est très loin de très loin de quand je designais des applications. On a développé plusieurs outils en fait, et plusieurs frameworks en fait qui permettent de regarder comment le produit a été développé et savoir si l'équipe a bien suivi en fait les étapes. Est-ce qu'ils ont fait les bons tests? Est-ce que ils ont consulté par exemple s'ils travaillent si c'est quelque chose où il y a de la reconnaissance faciale? Est-ce qu'ils ont travaillé avec les équipes d'intégrité pour s'assurer que ce soit fait bien et de façon éthique? Donc c'est une sorte de questionnaire, pour faire simple, qui évalue en fait le niveau de maturité en termes d'inclusion et d'équité. Et après, on leur fournit une sorte de rapport, une sorte de petite de fiche. Voilà votre note, voilà ce que vous faites bien, et voilà où vous pouvez faire mieux. Aujourd'hui, je suis plus dans le réfléchir à quels sont les signaux qu'on peut regarder et qui nous permettent de déterminer si un produit est inclusif ou pas.
Et ces frameworks, ils sont internes à Google ou ils sont
internes? Alors, on réfléchit à comment les ouvrir, mais On a beaucoup de conversations avec nos équipes légales parce que bah, évidemment on va commencer à parler de trucs comme ethnicité, couleur de peau, tout ça et donc pour l'instant c'est pas public, mais ça fait partie de nos buts quoi.
Mais quand tu dis ça, j'ai l'impression que c'est plus entre guillemets problématique par rapport à l'Europe, à la France.
Non, même aux États-Unis, il faut quand même même aux États-Unis, tout dépend en fait de, il faut positionner les choses de façon à ce que en fait le ça puisse pas être utilisé aussi à des fins malveillantes, mais oui, non, par rapport à l'Europe, on est obligé de faire très fin, donc je sais pas quand, je pense que ça va prendre encore un petit peu de temps, et puis même nous en interne, tu vois, cet outil, je l'ai lancé au mois de janvier. Donc, tu vois, ça fait quelques mois. On commence à récolter du feedback, à voir ce qu'on peut changer. Et mais oui, une fois que ce sera prêt, moi, ça fait vraiment partie des choses que je veux faire parce que, justement, Google est quand même en position d'avoir une certaine influence sur l'industrie. Ce serait dommage de rater cette opportunité. Mmh.
Je te pose la question parce que j'ai reçu Marine Boudin avec qui tu avais fait une conférence. Et elle, du coup, son équipe a ouvert la liste de tous les éléments d'accessibilité. Et je me dis, moi, quand j'ai un problème, je vais voir cette liste.
Bah ouais.
Et je me dis, est-ce que demain, ton framework ne serait pas ouvert pour qu'on fasse la même chose?
J'espère.
Croise les doigts un jour. J'ai une dernière question pour toi. En faisant mes recherches, j'ai découvert que vous êtes guidé par quelque chose qui s'appelle les 3 respects.
Respect the user, respect the opportunity, respect each other.
Ouais, exactement. tu peux m'en dire un peu plus là-dessus, parce que j'ai vu la vidéo, j'étais là genre, ouais, c'est canon, c'est sexy. Est-ce que c'est du marketing ou est-ce que comment ça s'applique?
Non, c'est vraiment c'est des principes vraiment appliqués en interne. Respect the users, et c'est vraiment, et voilà, c'est ce que mon équipe fait, c'est respect the user dans tout ce qu'il est. En fait, quand ça a été lancé, parce que ça a déjà quelques années, on s'assurait que justement nos objectifs ils s'alignaient avec ces trois piliers de respect. Ça permet, en fait, bon, c'est aussi très américain, hein, on va pas se mentir, mais ça permet de garder les gens en ligne d'une certaine façon sur les façons de travailler. En 18 ans de boîte, j'ai eu 7 managers très problématiques avec qui ça s'est pas bien passé, mais des gens toxiques, c'est la seule en fait que j'ai croisée dans mon parcours chez Google. Après, je dis pas qu'ils sont pas là. Parce qu'il n'y a pas de raison. Enfin, Google, c'est un subset du monde. On a forcément des gens. Mais je pense que quand tu as un cadre comme ça, ça fait que les gens, ils se tiennent à peu près tranquilles. Enfin, on ne part pas en roue libre, on ne fait pas n'importe quoi. Le respect each other, c'est... pour moi, il est assez important parce que ça permet aussi d'établir des relations qui sont différentes. Respect each other. T'es un VP et lui vient d'arriver et il est super junior, mais il a le droit de parler aussi, il a aussi le droit d'exprimer une opinion. Et globalement, ça marche. Après, je suis pas dans toutes les petites pochettes de Google pour dire si ça marche partout, mais globalement, oui. Enfin, je pense que tu vois une boîte qui se dit on va être guidé par l'idée du respect. Après, on peut toujours, on peut questionner sur si les événements dernièrement avec les licenciements, ça rentre dans cette ligne, mais je ne suis pas VP, c'est pas moi qui décide.
Ça marche. Est-ce qu'il y a un sujet que tu aurais voulu qu'on aborde et qu'on n'a pas abordé, ou une question que tu aurais voulu que je te pose que je t'ai pas posée?
Est-ce qu'il y a une question? Ouais, peut-être sur... après, on en a parlé, mais peut-être une question sur les... parce que c'est plus général à la carrière en général. Enfin, tu vois, comment on navigue une carrière dans une boîte comme Google? Qu'est-ce qui fait que ça marche ou que ça marche pas? Et ma réponse aurait été, bah, en fait, c'est les gens sur lesquels tu t'appuies. Je crois que j'ai eu quand même beaucoup de chance. J'ai eu des managers. Il y a une manager à laquelle je pense, Stéphanie. Elle a été manager pendant 4 ans. C'est une de mes meilleures amies aujourd'hui. Qui m'a vraiment... Ma mère était femme de ménage. J'ai grandi au fin fond de la campagne nivernaise. Je n'ai pas fait d'école de commerce. Je n'ai pas les codes du monde de corporate. Et elle me les a appris. En fait, elle a pris le temps de m'expliquer des trucs. Moi, je suis arrivée toute mignonne en me disant... oui, bah, si je travaille bien, ça se verra. J'avais pas du tout cette culture de parler de mon travail, de mettre en avant mon travail et mes contributions. C'est pas quelque chose que t'apprends en école d'art, hein, malheureusement. donc elle m'a appris ça. Et ça, tu vois, c'est des... Parce que c'est l'avantage, hein. On diversifie quand même pas mal la façon dont on embauche chez Google, parce qu'on sait que des équipes diverses, c'est plus performant, plus innovant et que ça fonctionne mieux. Mais après, on n'a pas tous les codes. Et donc, ça, de trouver des coachs, trouver des mentors, des personnes qui te permettent... Et c'est valable, en fait, partout. C'est vraiment quelque chose qui peut servir à tout le monde, dans quel que soit le boulot dans lequel tu es. Apprendre ces codes, mais aussi apprendre à te les approprier. Parce que j'aurais pas pu me déguiser et faire semblant d'être quelqu'un que j'étais pas. J'ai pas cette capacité-là, malheureusement, ou heureusement, je sais pas. Et donc, la longévité de ma carrière, elle tient aussi à ça, en fait. Parce qu'en vrai, le jour où je suis allée voir ce manager, je crois que je m'ennuie un peu, ce serait bien de me donner des trucs plus créatifs à faire. Il aurait pu juste appuyer sur le bouton d'éjection.
Ouais, c'est
et
clair.
Dire, bon, toi, tu vas sortir, t'es pénible. Et en fait, je pense qu'il a vu autre chose. Et c'est vrai qu'avec le recul, je me dis, mais mon Dieu,
qu'est-ce qui se serait passé?
Donc, ça aurait été, je pense... Parce que c'est quand même particulier, hein, de travailler dans une boîte de cette taille et puis surtout qui a grossi autant. Parce que quand je suis arrivée à Dublin, on n'était pas 400 dans les bureaux de Dublin et aujourd'hui ils sont 8000 ou quelque chose comme ça. Quoi.
Wow. Ah ouais.
Mais on n'était pas 400, on avait un bâtiment et on n'avait même pas tous les étages du bâtiment. On n'avait même pas de cantine, vous ne vous rendez pas compte. Donc, c'est-à-dire que je suis arrivée en 2005, on avait juste ce bâtiment, on était 400.
Et tu as vu toute l'évolution du groupe, en fait.
Et quand je suis partie, il y avait 4 ou 6 bâtiments différents. Enfin, on avait complètement pris le quartier entier et il y avait des milliers de personnes.
Comme ce qui se passe aujourd'hui à Paris, en fait.
À peu près, ouais. Oh ouais, tout doucement. Bah non, encore, c'est une expansion plus lente, c'est plus steady.
Ça marche. Bah écoute, merci beaucoup d'avoir répondu à ma dernière question. Si tu devais me recommander une personne à inviter dans le podcast.
Je suis embêtée parce que j'allais te dire Marine, mais t'as invité Marine. Bon, en fait, j'aurais voulu... Il y avait deux personnes. Je voulais dire, ouais, c'est Marine, parce que je trouve que le travail qu'elle fait au... pour les services numériques, enfin c'est ça me plaît beaucoup et d'ailleurs je suis toujours en contact avec Marine. Je me dis que peut-être ce sera ma prochaine étape de vie.
Je mettrai le lien dans la description.
Elle recrute en ce moment.
Ah oui, elle recrute.
Elle recrute beaucoup. Mais sinon, Benjamin Golon, qui se trouve être mon mari, donc on va dire, t'es un peu biaisé, mais qui est un artiste, enseignant, chercheur, et qui justement questionne la place des technologies dans nos vies.
C'est intéressant.
Ouais, et du coup, autant dire que quelqu'un qui se pose ces questions-là, qui vit avec quelqu'un qui travaille chez Google, ça...
Ça doit être fun.
Bah ouais, non, c'est très bien justement, parce que moi, ça m'ancre dans quelque chose de réel et de proche de la vraie vie. Google, c'est une bulle, c'est une jolie bulle, mais c'est une bulle. Et quand on est trop dedans, on a tendance à oublier un peu les perspectives de l'extérieur. Et moi, ça me permet justement de continuer à voir le pourquoi tout ce qu'on fait n'est pas... n'est pas forcément toujours juste ou ne peut être... Enfin, moi, j'ai des informations de l'intérieur et je vois les bénéfices. Et c'est parfois bien d'avoir une voix à l'extérieur qui dit « Oui, mais là, par exemple, est-ce que vous êtes sûr ?» quoi. Mmh. Donc, voilà. Et puis, son travail est... Et assez incroyable, et je ne dis pas ça parce que je l'ai épousé. Voilà.
Je te prendrai son contact, du coup.
Ouais.
Pour finir, est-ce que tu as des ressources à nous recommander ?
Alors oui, je vous recommande un livre qui s'appelle « Design Justice, Community-led Practices to Build the World We Need », un livre de Sasha Kostantsarchuk que je suis en train de lire, je suis qu'à la moitié. Mais c'est un livre en fait qui nous demande en tant que designer de réfléchir à la fonction du design, d'appréhender le design comme quelque chose de politique. Je pense que parfois en tant que designer, on se dit qu'on est en dehors de tout ça, alors que pas du tout. Qui demande de réfléchir au système de domination et de positionner en fait le designer pas comme un expert, mais comme quelqu'un qui est là pour faciliter les choses, qui est là pour faciliter la parole d'autres. Et j'aime bien cette approche du design parce que je pense de mon parcours, je ne me pense pas comme étant une experte en fait. Et plutôt que quelqu'un qui est là pour laisser la parole à ceux qu'on n'entend pas.
Très bien, je mettrai le lien dans la description. S'il y a des gens qui veulent te contacter pour discuter avec toi, on les renvoie vers...
LinkedIn.
Parfait. LinkedIn.
Parfois ça peut prendre un peu de temps, mais je finis toujours par répondre.
C'est vrai. Et ben, du coup, je mettrai le lien de ton LinkedIn dans la description. Et puis, c'est une bonne façon de conclure. Du coup, merci beaucoup pour ton temps, Daisy, et pour tout cet éclairage sur ce que tu fais. Comment tu le fais et pourquoi tu le fais, c'était hyper intéressant. Merci beaucoup.
Merci à toi.
À bientôt.
À bientôt.
Salut.
Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu es encore là, c'est sûrement que l'épisode t'a plu, alors n'hésite surtout pas à le partager autour de toi. Tu peux également en profiter pour mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify. Tu peux enfin t'abonner sur ta plateforme de podcast préférée et activer les rappels pour être informé dès la sortie d'un nouvel épisode pour pouvoir l'écouter. Allez, on se retrouve dans 2 semaines avec un nouvel épisode. Salut. We'll be right back.